Les rencontres d'Edmond Morel.
Alexandra Lapierre, vous publiez chez Plon le destin extraordinaire d'une dame du XVIIIe siècle qui s'appelle Elizabeth Shuttley et vous avez intitulé ce récit « L'excessive ». Alors, en deux mots, je lis vite les quatre lignes de quatrième de couverture pour que les auditeurs qui ne savent pas qui est cette dame magnifique puissent participer à notre entretien. Elizabeth Shuttley est issue de la petite noblesse. Elle est, dites-vous, une splendide aventurière qui devint la protégée du roi d'Angleterre, l'amie de l'impératrice de Russie Catherine II, et dans un siècle d'abus, de périls et de volupté, elle connut tous les fastes et toutes les humiliations, libertine, adultère, bigame, elle aima la vie, elle aima le pouvoir et les hommes avec passion, elle en fut aimée à la folie. À la fin de votre récit, vous dites que Catherine II la comparait un peu à ce qu'on dit d'elle-même de Catherine II, qu'elle était un César dans un corps de femme. Et c'est peut-être ce qui vous a attiré chez elle et ce qui l'attirait chez ceux et celles qu'elle rencontrait.
Oui, c'était une femme d'une incroyable énergie, d'une incroyable curiosité sur le monde. Et donc, en ce sens... elle avait cette espèce de puissance que pour nous, continue d'incarner César et Jules César. Et en plus, elle était extrêmement spirituelle, extrêmement maligne, intelligente, et elle avait un tempérament de feu. Donc, tous ces ingrédients en font une espèce de personnage de grande stature à une époque où on est quand même au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Et les femmes n'avaient pas d'existence légale, d'abord, pour la plupart d'entre elles, et ne s'en tiraient pas en dehors du mariage. Le début de la vie de l'excessive, c'est un personnage de Jane Austen. C'est une de ces très jeunes filles de bonne naissance, de toute petite noblesse, mais qui n'ont absolument pas une chance, d'abord parce qu'elles sont des filles, et que la seule façon de s'en tirer, c'est d'être dotée. Or, si elles sont des filles sans argent, la seule façon encore de s'en tirer, c'est de trouver un mari riche. Or, dans les milieux campagnards, c'était extrêmement, extrêmement difficile. En plus, l'éducation des filles était minimum, minimum. Donc, en principe, un personnage comme Elisabeth n'avait absolument pas une chance dans la vie de s'en tirer.
Alors, Elisabeth, on va démarrer par le début de ses malheurs, je dirais, le début de ses malheurs et de ses bonheurs en même temps, parce que c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle tire profit de tout ce qui lui arrive comme destinée tragique ou dramatique pour en rebondir. Alors, Premier événement qui lui arrive, c'est qu'elle se marie et c'est une sorte de mariage inexistant qu'elle fait parce qu'il faut se marier, parce qu'une de ses tantes la pousse à ce mariage. Et c'est un mariage qui ne durera pas.
C'est plus qu'un mariage qui ne durera pas. En fait, elle est dans cette situation qu'on évoquait là tout à l'heure, qui est qu'à 22 ans, si vous n'avez pas de mari, vous êtes une vieille fille, et si vous êtes une vieille fille, ben vous êtes finie. Donc, quand elle se croit abandonnée d'un homme qu'elle aime à la folie et qu'il aime à la folie, toute sa famille et la famille du jeune homme qui est contre cette passion la pousse à se marier le plus vite possible parce que sinon, elle trouvera jamais mieux et sinon, elle va rester sur le carreau, pour dire les choses clairement. Et du coup, en effet, elle épouse un garçon qu'elle a rencontré une semaine avant, qui, au fond, ne présente aucun intérêt quant à l'élévation sociale qu'on lui promet, dans la mesure où il est plus pauvre qu'elle. Il va partir le lendemain, il est marin, il va partir sur un bateau, donc elle n'aura pas de vie conjugale. Il ne lui plaît pas du tout.
Pas de vie conjugale, hormis... une nuit de noces tout de même, oui. qui aura comme conséquence le fait qu'elle est enceinte.
Absolument. Donc, elle va épouser un garçon qu'elle n'aime pas, ça encore, c'est assez banal à l'époque, mais surtout, très et très bizarrement, ça va être un mariage secret. Parce que ce mariage fait en toute hâte, se conclut derrière le dos de ses parents, par une vieille tante totalement hystérique. Mais comme il en existe quelquefois, ces gens à la fois, ces vieilles dames à la fois charmantes, et puis avec des jugements faux, qui la conseille mal.
Elle veut bien faire, finalement, ah, oui. quitte à faire souffrir cette pauvre jeune fille, mais elle veut bien faire.
Absolument. C'est ça le paradoxe, et c'est ce que moi j'ai aimé dans l'histoire d'Elisabeth aussi. C'est qu'il n'y a pas des bons et des méchants du tout. Il y a des gens qui se trompent, il y a des gens qui font des bêtises, et Elisabeth la première. Il y a des gens qui vont trop loin et qui ont des excès qui vont les conduire à des mensonges, à des situations inextricables. Et en ce sens, Elisabeth incarne tous ces paradoxes d'une jeune fille qui est à la fois complètement sincère, prise dans un étau qui la condamne à une ascension sociale, parce que sinon c'est la misère. Donc c'est soit tout, soit rien, d'où le titre est l'excessif, parce que c'est vraiment quelque chose qui la caractérise tout le temps. Et donc, cette jeune fille se retrouve obligée de se marier. Mais là aussi, incroyable paradoxe, cette chose qui pourrait paraître raisonnable est totalement déraisonnable. Le mariage va avoir lieu de nuit, sans le consentement de la famille du jeune homme, sans le consentement de sa famille à elle. Le jeune homme, parce qu'il est fou amoureux et qu'il veut absolument posséder cette jeune fille avant de partir en bateau, et que la tante a dit pas de mariage, pas de jeune fille, donc pour avoir la jeune fille, il l'épouse. Et quant à elle, elle est amoureuse d'un autre, on lui dit que l'autre l'a abandonnée, on lui dit que si elle n'épouse pas celui-là, elle se mariera absolument jamais, et elle y va. Résultat des courses, on se trouve devant des gens qui ne s'aiment pas. Enfin, elle déteste son mari très vite, et une nuit de noces absolument catastrophique, avec le lendemain le départ du mari. Et là, elle va garder secret ce mariage. Elle ne va jamais l'annoncer publiquement, justement, à ses propres parents. Et elle va vivre dans le mensonge durant les 10 années, ou les 15 années, ou les 20 années qui vont suivre.
Tout son destin, on peut le dire, se noue à partir de ce mariage secret qui l'a conduit à un mensonge pendant toute sa vie. Parce que lorsqu'elle rencontre par la suite le duc de Kingston, qui est le deuxième grand amour de sa vie, elle est prise devant ce dilemme terrible de vouloir l'épouser, puis d'avoir ce secret mariage qui l'en empêche. Faute de quoi elle peut être condamnée, et elle l'a été pour bigamie. Alors là, on entre dans un siècle d'intransigeance, dans un siècle très dur, surtout pour cette femme qui est un personnage admirable, révolutionnaire.
Oui, mais elle a, ce qui est très intéressant, comme souvent dans la vie, c'est que ce mariage secret qui va empêcher qu'elle en épouse d'autres va la rendre extraordinairement séduisante. Elle est jolie, elle est très drôle, elle est extrêmement pleine de pep, elle a de l'esprit, elle est pleine d'énergie. Et donc, elle est pauvre. Et comme elle fréquente, parce que nous n'avons pas dit que la chance a voulu aussi que cette petite jeune fille de la campagne soit prise sous l'aile d'un lord qui est un voisin de sa famille à la campagne, qui ne va pas la doter, mais qui va lui trouver un poste. Et comme lui-même est extrêmement puissant, il lui trouve un poste comme demoiselle d'honneur auprès de la princesse de Galles.
Ce qui va l'obliger à un premier mensonge, parce qu'être demoiselle d'honneur implique...
implique de n'être pas mariée et implique d'être vierge. Or, elle est mariée, et elle a eu cette nuit de noces qui fait qu'elle n'est pas vierge. Mais elle va évidemment ne jamais le dire, parce que c'est une telle chance d'être demoiselle d'honneur de la princesse de Galles, parce que ça lui donne accès. Alors, elle passe d'un extrême à l'autre, ça lui donne accès à la cour d'Angleterre. On est à la cour de George II, on est en 1745. Et donc, cette petite jeune fille va très vite apprendre toutes les règles de la cour, s'y débrouiller comme un poisson dans l'eau, y rencontrer le gratin du gratin, avoir des admirateurs qui sont les jeunes gens qui l'entourent, c'est-à-dire vraiment les lords d'Angleterre les plus titrés, les plus riches, et notamment des ducs et des pairs, et elle va les séduire parce qu'elle est ce qu'elle est. Elisabeth est vraiment l'incarnation de la vie et de la séduction, mais aussi, mais surtout, parce qu'à l'inverse de toutes les autres jeunes filles, elle ne cherche pas à se faire épouser. Alors eux, ils trouvent ça absolument génial. Une fille charmante dont ils tombent amoureux et qui ne leur demande rien. Donc, ils sont tous à ses pieds. La vérité, c'est qu'elle ne leur demande rien parce qu'elle ne peut pas les épouser. Mais ça, ils l'ignorent. Et eux, ils pensent qu'elle est merveilleuse de désintéressement, de spontanéité, de sincérité, et elle les a tous à ses pieds. Et ça, c'est typique d'Elisabeth. C'est-à-dire que la chose qui va plomber sa vie, qui est ce mariage secret, qui la rend malheureuse, qui la met en porte-à-faux, va être étrangement son incroyable tremplin pour séduire la terre entière. Et elle va s'en tirer jusqu'au moment où elle tombe, comme vous l'évoquiez, à nouveau réellement amoureuse. Elle avait eu ce premier amour qui était le duc de Hamilton, qu'elle avait cru être infidèle. On lui avait fait croire, on l'avait trompée, on lui avait menti. Elle avait cru que le jeune homme était infidèle et c'était la raison pour laquelle, de dépit, elle s'était mariée avec un autre, puisqu'il ne lui écrivait plus, puisqu'il avait disparu, parce qu'elle s'est crue totalement abandonnée.
Prétendument, puisqu'elle découvre après que tel n'avait pas été le cas.
C'était un piège et que ça n'était pas le cas. Donc, une souffrance épouvantable, un premier amour qui était en fait un vrai premier amour réciproque qui aurait pu leur apporter le bonheur à tous les deux. Le piège, elle se marie, elle ne peut plus épouser l'homme qu'elle aime. Et pendant 20 ans, elle va donc avoir à ses pieds tous les autres hommes qui la supplient tous de l'épouser. Elle rit, et elle se défile, et plus elle se défile, plus elle évoque des passions, plus elle réveille des passions. Puis un jour, elle-même va tomber à nouveau amoureuse, et cette grande séductrice, puisque avec ce système de ne pas pouvoir les épouser ou de se refuser, elle est devenue une sorte de Casanova féminin. D'ailleurs, elle est une amie de Casanova. Elle va devenir une amie de Casanova. Si vous lisez les mémoires de ma vie de Casanova et que vous allez dans l'index des personnages, vous allez trouver Elisabeth Chudley. Et donc,
petite parenthèse, ce n'est pas la seule personnalité qu'elle rencontre, parce qu'au cours de sa vie, elle aura rencontré tout ce qui fait du monde, de l'Europe, les grands seigneurs, le pouvoir, les reines.
Absolument. Et l'Europe existait totalement à l'époque. Et Elisabeth Chudley est vraiment l'incarnation de l'aristocratie européenne du XVIIIe siècle. Vous avez raison, elle va devenir l'amie donc de la princesse de Galles, puis la protégée du roi d'Angleterre, le beau-père de la princesse de Galles. Ensuite, elle va correspondre avec Frédéric II de Prusse, qui n'est pas rien, parce que comme nous savons, c'est quand même un grand esprit. Ensuite, elle va connaître le pape, devenir l'amie intime de l'électrice de Saxe. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tous ces personnages sont très souvent des personnages extrêmement sérieux, qui sont totalement subjugués par sa gaieté, par sa flamme, par son énergie. Donc, ce n'est pas du tout des guélurons, ça peut être des grands esprits qui sont absolument fascinés par son côté vital, sa vitalité. Et donc, pour en revenir à...
Elle rencontre le duc de Kingston, qui est son nouveau grand amour, qu'elle veut épouser, qu'elle épouse, mais là, nous entrons dans ce volet tragique de sa vie. Elle devient donc bigame.
Oui, elle ose faire ce qui est absolument impensable, qui est d'épouser deux hommes à la fois. On est au XVIIIe siècle. Déjà, de nos jours, ce n'est pas une bonne idée. Alors, le divorce existait au XVIIIe siècle. Le problème, c'est qu'on divorçait pour faute. Et donc, si elle avait son premier mari, qui s'appelle Hervey, Augustus Hervey, à ce stade, n'a lui aussi qu'une envie, c'est d'épouser une autre fille. Il l'a épousée à 20 ans, une nuit, le coup de folie. Mais le coup de folie, à l'époque, on était mariés, Et la seule façon de se séparer, c'est de divorcer pour faute. Or, pour faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour adultère et l'adultère de la femme, parce que l'adultère du monsieur, c'est jamais une faute. Et si Elisabeth accepte de divorcer pour faute de Hervey, jamais le duc de Kingston n'épousera une femme traînée devant les tribunaux par son premier mari pour avoir eu des amants, et notamment lui-même comme amant.
En plus, il aurait découvert à ce moment-là qu'elle était mariée, ce qu'il ignorait.
Absolument.
On est toujours dans le mensonge.
On est toujours dans le mensonge. Donc, elle ne peut pas laisser faire ce divorce pour adultère. Donc, elle est absolument coincée. Et elle est tellement coincée qu'elle va trouver un stratagème que je ne vous raconte pas. Mais
dont vous dites le nom quand même, c'est le stratagème jactance et prétention de mariage. C'est une sorte de petit codicille très discret, mais qui est très utile.
Oui, parce que jactance... Alors, j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. D'ailleurs, personne dans le livre, quand elle dit « voilà, j'ai trouvé ce système, ça va être ça », aucun des personnages n'a jamais entendu parler de ce truc. Mais elle a découvert dans les arcanes de la loi anglaise qu'il existe une clause qui est que celui qui prétend que vous êtes marié avec lui, ou celle qui prétend que vous êtes marié avec lui, doit prouver ce qu'il dit si vous le niez. Autrement dit, à charge pour celui qui dit être votre mari ou celle qui dit être votre femme, d'apporter le registre de mariage si vous le niez. Donc elle va voir son premier mari et elle lui dit, voilà, je vais t'accuser. Non, c'est pas toi qui me fais un procès pour divorce, c'est moi qui t'accuse de diffamation. Tu racontes à tout le monde que nous sommes mari et femme, prouve-le. Alors tu vas pas le prouver, hein, tu vas rien faire du tout, et comme ça, toi tu es libre, et moi je suis libre en 3 mois, à la place de faire une procédure de divorce que je vais refuser, qui va durer 10 ans. Et en plus, pendant ces 10 ans, si tu dis que je suis ta femme, tous mes créanciers vont dire qu'il faut que tu payes mes dettes. Or, et là, elle s'amuse, elle lui donne un chiffre tellement faramineux que le pauvre garçon tombe à moitié dans les pommes en disant s'il faut d'abord que je paye les dettes de cette femme avant de pouvoir en divorcer, de toute façon, je suis fichu. Donc, il va accepter son idée. Et donc, elle va épouser Kingston, puisqu'elle va s'estimer déliée de ce premier mariage, puisqu'il ne va pas arriver à le prouver, son complice sur ce coup-là, il ne va pas arriver à le prouver et elle va se croire libre.